présente et présent pour cette conférence où nous avons l'honneur, donc toujours dans le cadre de la fête de la science, mais surtout et avant tout dans le cadre d'un projet artistique qui s'appelle La carte du tendre, présenté par Alexandra Pouzet. Elle reviendra peut-être sur une présentation en termes de partenariat et surtout en termes artistiques. Je remercie aussi M. Parsi d'être venu porter un témoignage sur les questions concernant l'IS. Alors l'IS, peut-être expliquer rapidement cet acronyme. Qu'y a-t-il derrière cet acronyme qui peut se résumer à l'international situationniste? Et quand j'emploie le mot résumé, j'ouvre déjà une porte importante sur une période artistique qui, on va dire, concerne qui va de 1957 à 1972, pour faire un cadrage temporel de ce qu'a été l'international situationniste, avec un des représentants phares, Guy Debord, qui a un petit peu recensé ce que pouvait être à l'époque des questionnements concernant l'industrie, enfin la vision du spectacle, au niveau de l'approche philosophique et des éléments artistiques de l'époque, c'est-à-dire dans les années 60, je ne sais pas précisément quand a été écrit le livre de Guy Debord, 67, voilà, donc juste avant 68, pour recadrer dans les éléments révolutionnaires. Alors, Monsieur Parsi, vous allez peut-être nous éclairer sur ces questions concernant un art a priori révolutionnaire, je ne sais pas, moi je préjuge d'une approche artistique, philosophique, idéologique, enfin un ensemble où le mot révolution est forcément quelque part présent. Et puis peut-être par rapport à Alexandra et cette approche, parce que moi-même je m'étais interrogé, la relation cartographie, la relation... Moi, j'ai ressenti dans cette proposition aussi ce retour aux populations, donner la parole aux populations, enfin, comme j'ai porté le regard sur alors là aussi, je suis méfiant sur les mots, parce que entre les gens, les individus, les personnes, là, je me réfère à quelqu'un comme Jean-Michel Lucas, peut-être voir la démarche de la carte du tendre. Et puis,
de toute façon, on est sur un terrain miné là, Patrick.
Oui, mais
tout ce qu'on va dire va être absolument contradictoire avec le mouvement situ, je pense. Déjà, la position, la posture à partir de laquelle on parle est totalement contradictoire avec les situ.
D'accord.
On est à la mauvaise position politique, n'est-ce pas, Paul Hervé?
Mais moi, je suis très content parce que je pense qu'on a déjà une cohérence avec la fête de la science, puisque les sciences sont déjà un terrain miné. Donc,
exactement.
Je pense que
donc là, on
au moins,
on
préserve une posture de cohérence. Donc je vais arrêter cette présentation et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va prendre nos habits des mineurs et on va aller joyeusement sur ce terrain donc de l'international situationniste. Avant de commencer, peut-être, comme je l'ai dit, Alexandra, nous parler de ton projet et échanger autour de cette problématique et de ce cadre explosif.
Ouais, peut-être que justement par rapport au situationnisme, moi je peux évoquer ce qui m'a en tout cas interpellée, ce qui a fait que la carte du tendre a été régulièrement nourrie par l'esprit situ. Parce qu'il y avait quand même cette problématique, c'est-à-dire la question du lien affectif entre l'habitant et le territoire. Et à un moment, les situ se sont posé la question du lieu qui était impactant sur la psychologie des gens tout autant que la psychologie des gens était impactante sur les lieux. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de eh ben je vais être surréaliste alors pour commencer, de vase communicant entre l'un et l'autre. Et donc ça m'a beaucoup intéressée parce que je le ressentais profondément et aussi parce que je suis allée faire des vérifications sur le terrain. J'ai interrogé tout un tas d'habitants qui, eux, m'ont emmenée exactement là où j'espérais qu'ils m'emmènent pour justement arriver à ces vérifications personnelles au départ. C'est-à-dire qu'en effet, il y a bien un lien affectif qui existe entre le territoire et l'habitant. Et que l'un et l'autre sont... Il y a cette correspondance, il y a cet impact qui s'exerce de façon réelle. Donc la carte du tendre, pour resituer, c'est un travail... moi j'ai coutume d'appeler ça une enquête artistique, Donc c'est assez drôle parce que le week-end dernier, j'étais avec une amie qui est sociologue et qui m'a dit bon, c'est une pensée totalement postmoderne, c'est-à-dire on ne peut pas parler d'enquête dès lors qu'on n'a pas un doctorat en sociologie ou qu'on n'a pas étudié les sciences humaines ou autres de façon approfondie. C'est-à-dire que de là où je me situe, en effet, moi j'ai un point de vue totalement artistique et j'ai une démarche artistique. Mais il n'empêche que j'ai pratiqué une enquête, alors évidemment pas de façon attendue par les sciences sociales ou les sciences dures, je l'ai pratiquée de façon purement intuitive. Et ça m'a emmenée vers 60 personnes, des habitants de 6 villes différentes, donc Niort, Poitiers, Angoulême, Tours, Saint-Pierre-des-Corps et La Rochelle. Et je les ai interrogés assez longuement sur le lien qu'ils nourrissaient, qui les liait à leur territoire. Et donc, de ces interviews que j'ai enregistrées sur un plan sonore, que j'ai réécoutées longuement à plusieurs reprises, voilà, il y avait une évidence, c'est-à-dire que j'étais plus totalement seule à halluciner sur cet impact que pouvait avoir le territoire sur moi ou sur l'influence ou c'est-à-dire la conséquence que je pouvais aussi amener sur un territoire, c'était quelque chose de partagé. Bon, donc ça m'a rassurée. C'était la première chose. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une réalité dans ce lien. Avec Paul Hervé, hier, on a évoqué ce qu'on allait dire, ce qu'on allait vous raconter aujourd'hui. Et donc, on s'est dit que dans un premier temps, ce qui était bien, c'était de rappeler les débuts de l'IES et que, avant toute chose, c'était des artistes qui s'étaient rassemblés, fédérés. Enfin, fédérés, il y a eu des dissensions, des exclusions. Ça ne s'est pas passé tout à fait dans une bonne entente générale, mais en tout cas, ça a fait avancer pas mal de pensées sur les relations entre la ville et l'humain. Entre l'humain et l'urbain. Et moi, c'est un peu ce que j'ai interrogé dans la carte du tendre. Je pense que je ne vais pas parler ici des précieuses ridicules, tu vois, et de la carte du tendre imaginée au XVIIe siècle par des femmes assez naïves qui avaient pensé qu'on pouvait réimaginer de façon allégorique une cartographie amoureuse. Avec la mer du danger, la cité de billets doux. Voilà, donc on peut déjà évoquer peut-être les débuts de l'IS.
Pour parler de l'IS, c'est jamais facile parce que c'est même pas un mouvement, c'est un territoire qui s'est. Ah.
C'est bien là?
Ça marche, je pense que ça marche pas. Non. Il faut appuyer quelque part. Hein.
Je pense qu'on est dans un lieu scientifique.
Ah oui, il faut vraiment parler dans ouais. Le micro. Oui, mais moi, je ne suis pas Céline Dion. Hein. Je ne suis pas habitué à parler comme ça. D'habitude, je parle. Voilà. Et donc, parler de l'IS, ce n'est jamais facile parce que, encore une fois, c'est plutôt des rencontres, ce sont des discussions qui ont lieu, des actes, des gestes qui, en fait, dans l'imaginaire le plus commun, apparaissent toujours comme quelque chose d'assez trouble. Et le trouble vient du fait qu'on n'arrive pas à identifier, en fait, très bien l'IS. Tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Je dirais que c'est normal que personne n'en sache beaucoup, puisqu'ils n'ont jamais été très nombreux, hein, ça n'a jamais dépensé. Il y a peut-être eu, je ne sais pas, 70 personnes qui ont été mêlées à cette histoire-là. Et bien entendu, au-dessus d'elles, il y a le personnage assez trouble de Guy Debord qui masque en fait la réalité de ce mouvement, sachant que lui avait donc choisi comme posture de ne jamais apparaître publiquement. Il n'y a jamais eu de photo de Guy Debord. Il a simplement écrit, il a commencé à écrire très jeune, hein, en 1952, même il a son premier film, Hurlement en faveur de ça, date de 1952. Je regardais tout à l'heure, d'ailleurs, parce que je ne savais plus en quelle année il était né. Donc j'ai ramené le. Voilà, il est né en 32, je crois. Voilà. Je vais vous le dire pour pas me tromper. Voilà, le 29 décembre 31. Donc il a fait son premier film vraiment très très jeune. Et Guy Debord est donc ce personnage qui a été fantasmé par la société politique, par tout le monde, sans jamais lui-même se révéler, sauf très bizarrement donc, au moment de l'assassinat de Gérard Lebovici, puisqu'on avait, la police avait imaginé que Gérard Lebovici, qui était son mécène, hein, qui était à l'époque non seulement producteur des Bidas en folie, mais en même temps il avait la maison d'édition Champ Libre, aider Guy Debord, donc qu'il avait nommé conseiller littéraire, et ça permettait à Guy Debord d'avoir un peu d'argent. Bref, la police avait imaginé que Debord pouvait être à l'origine de ce règlement de compte, et là, Debord donc a accepté de publier une photo de lui-même, qui est assez intéressante parce que on a le visage d'un homme très empâté, alourdi, assez nostalgique. C'est une photo noir et blanc. Il est pris à contre-jour, hein, il y a un rideau à gauche, une fenêtre à droite, et c'est un homme fatigué, c'est un homme là, c'est un homme bon, qui est un peu hors du temps d'une certaine manière, et évidemment ça marque au fond l'échec et le déclin de toutes ces idées. Alors d'où tout ça est apparu, en fait, à l'origine de l'IS, il ne faut jamais l'oublier, c'était des artistes. C'est une chose qu'on a perdu de vue, mais le groupe fondateur de l'IS s'est rassemblé, un peu de bric et de broc, sur les décombres d'autres mouvements artistiques. Donc c'est un peu ça dont je voulais rappeler parce que aujourd'hui il y a une telle instrumentalisation de l'œuvre d'art, de l'art, de la notion d'art par les institutions que ça en devient absolument, pour moi en tout cas, effrayant. Et même si je passe encore la plupart de mon temps à tenter de parler d'art, force est de dire qu'aujourd'hui quand on parle d'art, automatiquement dans la tête, hein, c'est clair, c'est dollars, c'est marché, c'est spéculation, c'est profit, c'est...
tout ce que dénonçaient les situs.
Voilà, tout ce que, évidemment, les situs dénonçaient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on est au début des années 50, c'est les décombres, hein, on est dans les décombres. On est dans un moment de l'histoire où, voilà, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tous ces ravages. Alors, ce n'était pas aussi grande boucherie que la Première Guerre mondiale, mais néanmoins, les sociétés occidentales se sont effondrées. La société soviétique était en ruine. Bref, le monde est un vaste champ de décombres. Et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'au monde, sur ce champ de décombres, peuvent surnager des paroles, peuvent surnager des mots. Alors, et les artistes étaient là, pas tous, hein. Il y en a certains pendant la guerre, je crois qu'ils ont un peu déconné, mais bref, l'art était tout de même encore une matière vivante. Et c'est une espèce de fraction comme ça du mouvement surréaliste qui a été, avant la guerre, extrêmement actif. C'était érigé la figure tutélaire d'André Breton, qui contrôlait, qui excluait, qui balançait des oukases. Et donc ça a provoqué évidemment dans ce petit groupe d'artistes autour de ce mouvement des tas de ruptures, dont l'une d'entre elles a été l'Internationale des Tristes, dont la figure tutélaire a été un artiste qui s'appelait Isidore Isou, mais qui très tôt pensait qu'il était un messie. Donc il s'était attribué en fait dans cette histoire tous les mérites. Alors, ils ont été quelques artistes comme ça à écrire des textes, à publier des images, qui elles-mêmes contestaient donc la domination du surréalisme, qui lui-même s'était fondé sur une contestation du modèle de l'art dominant. Donc, on voit comment un modèle de contestation, en fait, à un moment.
Et puis avant, il y avait le dadaïsme, hein, déjà, oui, le surréalisme contre le dadaïsme.
Grosso modo, on peut remonter à 1900, on va dire 1905, hein, grosso modo. Et puis il y a le manifeste du futurisme, enfin, tous les futuristes qui ont viré fascistes après. Enfin, bon, il y a toujours des décombres comme ça dans l'art. Mais donc là, l'Internationale des Tristes, c'était vraiment en fait, c'était, comme on dit, très germano-pratant. Hein, c'était quelques artistes dans Paris, dont aujourd'hui. On voudrait nous faire croire à la très grande importance, mais c'est juste une importance littéraire. Quelques textes, pas forcément toujours très intéressants. Et néanmoins, ils avaient comme mérite de venir bousculer un peu les histoires. Et c'est sur ce moment-là que, effectivement, apparaît Guy Debord, Et je crois que c'est une chose très, très intéressante, c'est le fameux film donc Hurlement en faveur de Sade, qui est un film qui dure une heure, dont 24 minutes de silence total. Donc en fait, la projection, c'était juste la projection d'images de noir et de blanc, et un commentaire lu par Debord, pardon, qui décrit des situations, qui décrit des mouvements, des choses de la ville, enfin des... Et ce silence de 24 minutes. Alors évidemment, ça a provoqué un énorme scandale. Et Debord a compris à ce moment-là que c'était par une espèce de silence généralisé qu'il allait pouvoir exister. C'est-à-dire comment avoir un pied tout de même dans le monde tout en étant un peu en dehors. Et toute sa stratégie, et toute la stratégie de l'IS au départ, ça va être ça. C'était à la fois tenter de produire du sens qui venait casser complètement tout ce qu'on pouvait attendre de l'art, et cette volonté de destruction passait clairement par la destruction de l'image, la destruction de l'œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art,
du
texte en tant que texte. Bon, c'est les premières expérimentations de Gilles Volman de découper des textes et de recoller des bandes de texte sur de la toile. C'est le film de Volman, mais je ne sais plus comment il s'appelle, qui est projeté sur une sphère dans l'espace, que vous pouvez voir d'ailleurs, c'est assez intéressant, il est en projection maintenant en permanence dans les collections du musée d'art moderne du Centre Pompidou qui avait acheté le film il y a quelques années. Bref, il y a eu en France donc cette première source-là qui était le rejet de l'institution qui était devenue à leurs yeux le surréalisme et le rejet du système dans lequel vivaient ces artistes à Paris. La deuxième source intéressante de l'IS, elle est à l'étranger, c'est le mouvement Cobra. Donc Cobra, ça voulait dire Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, dans lequel on retrouvait notamment des artistes comme Asger Jorn, comme Constant, qui, eux, par contre, à la différence de Volman ou de Debord, étaient véritablement des artistes traditionnels, on va dire, hein, d'artistes peintres. Naturellement, le personnage le plus important est Asger Jorn. Et Asger Jorn était danois, c'était un militant communiste avant-guerre, et il portait en lui une grande fascination pour toute l'histoire des mythes nordiques, pour la culture populaire, pour la peinture populaire. Il a écrit d'ailleurs, avant et après la Seconde Guerre mondiale, des livres sur toute la sculpture qu'on retrouve dans les églises, dans les fermes, sur tous les mythes nordiques. Il y a signes gravés signes gravés sur les églises de l'heure qui a été publié après-guerre, ça. Mais bon, voilà, quelqu'un qui vient d'un territoire totalement différent à celui de Bord. De Bord, à l'époque, donc, il a 20 ans, enfin 22 ans. Il a rejeté l'école, il a eu son bac, il a passé son bac à Nice. Et il est parti à Paris vivre une espèce de dérive. En réalité, c'est parce que sa mère était partie habiter Paris. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était vraiment très littéraire. Asger Jorn, c'est quelqu'un qui était plus âgé et qui avait derrière lui tout un passé d'artiste marqué politiquement tout de même. Constant était hollandais. Alors Constant était un artiste traditionnel, peintre, plutôt traditionnel. Et ce mouvement Cobra il y avait d'autres mots, enfin bref, je vais pas citer tous les artistes qu'il y avait dans ce mouvement, et avait tout de même pour ambition lui aussi de sortir l'art des musées, de rendre à la peinture sa qualité de pratique artistique échappant à une espèce de vision historiciste, quelque chose qui était plus matiériste, direct. Bon, ça a échoué. Au bout de 3-4 ans, ils se sont fâchés parce que c'était très difficile de se rencontrer, parce que, évidemment, les ambitions des uns et des autres n'étaient pas toujours les mêmes. Bon, Cobra, c'est une très belle histoire aussi littéraire. Tous les textes, notamment autour de d'autres mondes, sont toujours très, très intéressants à lire. Ce qu'il y a d'intéressant dans Cobra, c'est cette idée qu'il y avait des artistes qui, au même moment, dans des lieux différents, pouvait avoir une vision de l'art contre le système dominant de l'époque. Voilà. Et en quoi Asgard-Jorn et Constant ont été très, très intéressants. Enfin, c'est surtout Asgard-Jorn. Asgard-Jorn, il a créé donc, en 1954 un truc qui s'appelait le Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste, donc le MIBI. À ce moment-là, il vivait en Italie, il était parti vivre en Italie. Et il a publié un certain nombre de textes très, très intéressants contre Max Bill. Parce que Max Bill, donc grand artiste suisse, voulait relancer le Bauhaus, toutes les théories fonctionnalistes, productivistes, où la pensée est absolument rationalisée, ordonnée, mise au service d'un système de production qui soit plastique, qui soit architectural, qui soit industriel. Dans une espèce d'ordonnancement dans lequel, effectivement, l'homme est réduit à être un individu intégré ou au service de cette machine à produire, dont on pourrait dire, d'une certaine manière, que des effets peuvent se voir dans l'architecture de Le Corbusier. Voilà, si je trace des lignes comme ça, un peu, si on serpente un peu, on retrouve ça, même si, bien évidemment, ce n'était pas à l'origine... du tout la vision de Gropius, hein, qui était vraiment pour une architecture qui soit une architecture mais permettant aux familles, au peuple, bref, de se sentir mieux que dans les habitats qu'ils avaient jusqu'alors. Bon. Mais Asgard-Jorn a vu dans ce projet de Max Bill le retour de la fonctionnalité, le retour de l'ordonnancement, le retour de la ligne droite, de l'angle droit. Et il a écrit dans une revue qui s'appelait Heuristica, donc un certain nombre de petits textes très, très pointus contre cette fonctionnalité qui pour lui, était absolument horrible. Et quand il est en Italie, il rencontre d'autres artistes italiens, Piero Simondo, et il rencontre un type pour lequel j'ai une grande... sympathie, évidemment, je ne l'ai jamais rencontré, parce qu'il est mort en 63, mais j'étais bien trop jeune, qui s'appelait Pino Galizio. Et c'est pour moi toujours, avec un certain plaisir, je lance ce nom qui n'est pas du tout connu, hein. Même en Italie, ce n'est pas un artiste qui a laissé beaucoup de traces, mais Pino Galizio, il était pharmacien à Alba, et il fabriquait des chocolats aussi. Et il s'était pris d'une passion en 52-53 pour les gitans. Il y avait des Romanichels à ce moment-là. Alba, c'est à 60 km au sud de Turin, à peu près, mondialement connu pour les truffes, évidemment, les truffes blanches. Et Pino Galizio s'était pris d'amitié pour tous ces gitans qui vivaient dans la misère. Il faut voir ça à l'époque. Et il y a une photo absolument magnifique où on voit ce Pino Galizio qui était devenu élu municipal et qui s'est, avec une boucle à l'oreille, un chapeau italien, une gueule pas possible. Et il pose, enfin, il est au milieu d'un campement de gitans avec les enfants, la fumée, les tentes. Et moi, j'ai toujours pensé que voilà, c'était la preuve de cette passion. Alors, c'était vrai que c'était sa passion, sauf que son fils, après, m'a avoué que c'était une mise en scène et que c'était... Mais c'était les gitans. Alors, pourquoi je parle des gitans? Parce que, évidemment, dans toute cette problématique de ces artistes, apparaît cette idée du nomadisme, du mouvement. Donc, encore une fois, c'est échappé au point fixe. Donc le MIBI a été, dans ces années 54-55, juste quelques textes qui ont été lus par 10-15 personnes, hein, pas beaucoup plus, mais en moins, ça a le mérite de ça contester le modèle qui était celui dominant à l'époque. Autre influence, celle de Pino Galizio, le comité psychogéographique de Londres, Ralph Romney. Ralph Romney, mais on ne sait pas trop ce qu'il a produit en tant que comité psychogéographique. Dans toutes les archives de l'IS, on parle du comité psychogéographique. Mais,
Il se retrouvait, il buvait des coups.
Oui, voilà. ils avaient une pratique qui était commune, c'était les bistrots, ça c'est sûr. Et une pratique de la ville et de l'approche de la ville par la fréquentation des bistrots. Alors, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, ils se rencontrent? Pino Galizio entend parler de Asgharion, qui est réfugié ou qui vit à Albisola, qui est un lieu très important, parce qu'à cette époque-là, Albisola, c'est le lieu où se trouvent tous les céramistes d'Italie. Et donc, Asgharion va se lancer dans la production de céramistes. Ça marche assez bien. Donc, Pino Galizio entend parler de cette histoire-là, c'est pas très loin, c'est à 80 bornes. Il va à Albisola, rencontre Asgharion, et puis il y a une sympathie entre ces deux hommes. Et Asgharion convainc donc Pino Galizio de devenir artiste. Et c'est important parce qu'il va basculer et il va commencer à réfléchir à un certain nombre de nouveaux concepts dans l'art. Le principal concept de Pino Galizio, c'était le concept de peinture industrielle.
Et au
donc, après, c'était au maître. Donc, il pensait qu'effectivement, il fallait rendre la peinture au peuple. Il fallait que le peuple puisse acquérir des œuvres d'art. Ça veut dire qu'elles ont encore le statut d'œuvre d'art, mais qu'ils puissent acheter ça sans aucune difficulté. Et donc,
alors, est-ce que il concevait ça comme une œuvre d'art? Non, il disait justement, c'est-à-dire, ça devient un objet accessible, presque de décoration. Il voulait sortir du champ de l'œuvre d'art, non?
Non, je pense pas. Je pense qu'il était. Non, je suis pas d'accord là-dessus. Je pense qu'effectivement, quand il peignait ses rouleaux de peinture, il achetait des rouleaux de peinture et il les vendait au maître sur les marchés. Il les vendait bien en tant qu'artiste. Ah. Alors, même si ça coûtait 10 balles, c'était pas le problème, mais il les vendait bien en tant qu'artiste. Je pense que tous ces artistes rejetaient l'institution de l'art, mais ce qu'ils faisaient appartenait bien tout de même au registre de l'art.
Néanmoins, il le fait dans une galerie, ça.
Non. Il allait sur les marchés. Pino Galizio, il allait sur les marchés. Il coupait. Il y a des photos où on le voit. Bon, là aussi, on peut douter, évidemment.
Mais à un moment, il le fait dans une galerie, Paul Hervé.
Il a fait des choses, alors, un tout petit peu plus tard. Notamment, il a fait une œuvre magnifique qui s'appelle La caverne de l'antimatière, qui est une énorme installation de peinture. Mais ça, c'est en 58, alors donc on est un petit peu plus tard, où c'était une réponse au vide, à l'exposition sur le vide d'Yves Klein. Donc Yves Klein avait fait une exposition dans la galerie Iris Claire à Paris, il n'y avait rien. Enfin bon, voilà. Et donc lui, il a fait l'inverse, c'est-à-dire il a créé un environnement total de peinture. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, le premier grand environnement de peinture, donc mur, plafond, sol. Et je ris parce que quand je l'ai retrouvé, cette œuvre conservée à Venise, et j'ai eu l'occasion de la montrer en 89 au Centre Pompidou, dans une exposition, mais il n'y avait plus le sol. Et donc, lorsqu'on a voulu l'installer, il a fallu faire le sol. Donc, vous imaginez la nuit de performance qu'il y a eu au Centre Pompidou, c'est, je pense, la seule fois où on a pu voir 4-5 personnes passer la nuit à peindre des toiles au sol. Ouais, c'était assez beau. Mais bon. Bon, je reviens sur cette histoire des artistes, parce que je pense qu'ils avaient, comme l'avait dit Debord quand il avait publié, quand il avait fait son film Hurlement faveur de Sade, il avait dit il n'y a pas de film, le cinéma est mort. Alors c'est un jeu, parce qu'en même temps, ce qu'il fait, c'est un film. Et donc, tous ces artistes ont toujours été un petit peu dans cette contradiction. Hein. Mais c'est à ce moment-là, donc on est en 54-55, où Debord invente tous les concepts qui vont être au cœur de la problématique à ce moment-là situationniste. Donc, le concept de dérive, le concept de détournement, le concept de psychogéographie. Et ça s'ancre tout de même dans une tradition littéraire bien française. C'est-à-dire, en l'occurrence, par exemple, la psychogéographie, c'est jamais que l'extension du concept de flâneur qu'on retrouve évidemment chez Walter Benjamin, chez Baudelaire ou chez d'autres. Donc cette idée qu'effectivement c'est lié à l'idée de la perte de temps, la perte de repères, l'idée on flâne, on se laisse porter au gré du vent, on se laisse emporter par ses impressions, par ses visions, par ses émotions.
Par les courants porteurs
d'une ville, de la campagne, peu importe. Voilà, donc le concept de psychogéographie, c'est juste prendre la mesure d'un territoire, d'un espace, hein, y marcher, et puis se laisser porter par ce qu'il appelle les unités d'ambiance. Bon, alors évidemment, avec un peu d'humour, on dira que les unités d'ambiance, c'est souvent les bistrots. Bon, voilà.
Oui, et par le passage actif dans les ambiances variées. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas de rester au même point très longtemps.
Et ça, c'était... Ça bouge. Mais ça, c'était, c'était la fameuse carte où on voit qu'il a faite en 57, hein, où on voit les plans de Paris découpés avec les flèches rouges, qui renvoient à cette problématique du déplacement, du mouvement. Bon, voilà. Et c'est dans une revue belge, si vous avez l'occasion, parce que ça a été republié, on le trouve facilement, c'est une revue qui s'appelle « Les Lèvres Nues », que l'on trouve tous ces textes de Guy Debord avant l'international situationniste. Donc le concept de détournement, c'était effectivement là prendre quelque chose dans un espace et puis le détourner. Donc c'est ce qu'ils ont pratiqué dans la bande dessinée, par exemple, hein, où ils ont pris des images. Dans le cinéma, Debord n'a jamais, pratiquement jamais, on va dire, un peu tout de même filmé. Il a surtout récupéré toute sa vie des images qui étaient déjà faites par d'autres. Il est remonté, il remettait du son, il remettait des commentaires. Mais l'idée, c'était de dire que de toute façon, il y avait une telle matière disponible qu'on peut, là, ça c'est le propre de l'art d'ailleurs, de le découper, le fragmenter et le réagencer pour donner naissance à une autre œuvre d'art. Le concept de dérive, qui a été le grand concept de la pratique situationniste, c'était là aussi cette idée toujours du nomadisme, qu'il soit physique, qu'il soit intellectuel, qu'il soit poétique. La revendication de tous ces artistes, c'était tout de même, au fond, une attitude de rejet de tout ce qui pouvait faire le système politique, entendu au sens large, le système politique et culturel. Là où ils ont été, pour moi, très, très importants, c'est que toute cette édification de leur pensée, elle s'est faite pas simplement contre un système, mais aussi pour un projet. Après, on peut s'interroger sur la légitimité de ce projet, sur son succès, sur son aboutissement. Mais c'était avec beaucoup d'humour, quelquefois, ou quelquefois beaucoup de violence, un rejet. Et donc aujourd'hui, évidemment, parler de ça ici, dans cet espace-là, il y a quelque part une espèce de contradiction absolue, puisqu'on est plutôt dans l'ordre, à l'instant où je parle, de sanctification, entre guillemets, hein, alors que c'est tout ce qu'il détestait quand il y avait eu en 56 à Bruxelles un congrès des critiques d'art, et rien que pour perturber le... l'AICA, hein, pour perturber le fonctionnement de l'AICA. Donc, il y avait un situationniste belge qui s'appelait, parce qu'il est mort il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, il se faisait appeler Walter Korun, et qui, avec un autre qui s'appelait Maurice Vicard, ils ont passé leur nuit à appeler les fameux critiques d'art au téléphone, dans les hôtels, en les dérangeant toute la nuit, en les insultant, en les traitant de tous les noms. Ils avaient fait un tract où ils disaient « disparaissez, critique d'art, imbécile, partiel, incohérent, divisé », bref. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'anecdote, c'est que le fameux Walter Korun était à l'époque officier de l'armée de l'air belge. Et il est mort général de l'armée de l'air belge. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a une quinzaine d'années où il est sorti du bois. Il a publié d'ailleurs une histoire de son histoire aux éditions Alia. Je crois qu'il s'appelait Peter de Groot. Plus connu sous le nom de Walter Korun, parce que pendant des années, tout le monde s'était interrogé pour savoir qui était ce fameux Walter Korun. Bon, il était juste officier de l'armée de l'air belge. Bref. Donc voilà, on est dans ces moments-là avec cette volonté de s'appuyer sur l'art pour transformer bien sûr le système de l'art, mais aussi le monde.
La pensée dominante.
La pensée dominante, le système organisationnel dominant. Alors cette partie de l'histoire de l'IS va durer, parce que l'IS en tant que tel est créé en 1957 à Coscio d'Arochia, qui est une ville en Italie, au nord de l'Italie, et qui a comme caractéristique d'être construite à flanc de montagne, mais sur des caves, partout il y a des caves dans le sol, et les caves communiquent entre elles. Donc ça correspondait tout à fait à ce que, effectivement, les situationnistes voulaient. Et donc ils s'étaient réunis, en fait, ils avaient fait un congrès. Il y a encore une photo magnifique où on voit Congrès mondial des artistes libres à Alba. Il y a juste 15 personnes quoi, hein, dans la salle. Et après, ils sont allés chez Piero Simondo, parce qu'il habitait Cocho da Rocha, pour créer l'international situationniste. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, Debord avait sorti son fameux rapport sur la construction des situations. Et puis, ils ont commencé donc, à lancer la revue internationale situationniste, qui au total connaîtra 12 numéros, 12 ou 13, c'est toujours le mystère, 12, enfin moi je pense 12, mais qui sont édités jusque 1970, voilà, après ça sera arrêté. Et la partie artistique va être active, grosso modo, jusque 1963. Et qu'est-ce qui se passe donc pendant cette période-là?
Et le mouvement est dissous en 72.
Bon, il meurt en 72. Voilà. Voilà, il meurt en 72. Alors, ce qui reste de cette période-là, c'est effectivement une espèce d'intense activité, pour le coup, artistique, à tel point que il y a cette anecdote qui est assez belle, c'est que en 1961, le directeur du musée d'Amsterdam, qui s'appelle Willem Sandberg, qui à l'époque est le conservateur absolument en pointe, le premier qui témoigne des changements de l'art aux États-Unis, le pop art. C'est aussi son grand apport à l'histoire de l'art, c'est d'avoir retrouvé les fameux tableaux de Malevitch qui avaient été planqués entre 1925 et 1954-55 en Allemagne. C'était le fameux tableau que Malevitch avait exposé à Berlin en 1925. Et qu'il n'avait jamais ramené en Union soviétique parce qu'il savait qu'ils allaient être détruits. Et donc c'est ce Sandberg qui a réussi à remettre la main sur ces tableaux qui étaient conservés dans une ferme. Bref, il avait une aura magnifique. Et il entend parler de ce mouvement un peu flou. Et il va proposer à Asger Jorn de faire une exposition. Et cette exposition devait en fait être une sorte de labyrinthe qui reproduisait le modèle d'une ville. Donc on retrouve cette idée que c'est dans la ville que les choses doivent se vivre. Ils avaient fait 2 ans avant le fameux guide des passions de l'amour, qui était une sorte de carte Michelin sur laquelle était tracé un plan de Paris découpé avec là encore ces flèches.
C'est dans des trajets amoureux, ouais.
Oui, amoureux ou autre, bon. Et donc, j'ai eu l'occasion d'avoir le plan de cette exposition. Et en fait, c'est un plan d'ambiance. Donc, alors, il y avait l'ambiance du vent, il y avait l'ambiance de la pluie, la zone de turbulence, etc. Et donc, les choses avancent. Debord travaille, tout le monde travaille. Et au dernier moment, pirouette, encore une fois, Debord qui toute sa vie aura un pied dans l'institution et en dehors, finalement, pour éviter de se retrouver accusé de faire le jeu du système que lui-même critiquait, fait mine de dire que le musée étant financé par les fonds du prince de Hollande, le prince Bernard Fons, il écrit une lettre au directeur du musée en disant que voilà, il renonce à cette exposition. Et l'exposition n'aura pas lieu. Et Sandberg, ça c'est intéressant, Sandberg rebondit et va demander à un jeune artiste de l'époque, qui s'appelle Daniel Spoerry, et à Pontus Sultan, qui était aussi à l'époque un artiste, de faire une exposition. Et cette exposition, qui est restée célèbre dans l'histoire des expositions des années 60, s'appellera Dilabi. Donc,
voilà. Du labyrinthe.
Alors, sur la dernière exposition en tant que telle à laquelle Debord participera, c'est une exposition qui a eu lieu en 1963 à Odense, au Danemark, qui s'appelait Destruction RSG6. Et dans cette exposition, il y avait des tableaux de J.V. Martin, de Ralph Romney, je crois, je ne suis pas sûr, Ralph Romney, Michel Bernstein. Mais surtout, je parle de cette exposition parce qu'il y a 6 tableaux qui étaient des directives de Guy Debord. Et ces tableaux, c'est intéressant parce que bon, j'ai retrouvé la photo dans ce livre. En fait, on voit là tout le basculement de la position de Guy Debord, parce qu'il est embêté à ce moment-là. Toute sa théorie sur l'art, qui est de détruire pour reconstruire autre chose, qui est de vouloir repousser le plus loin possible les limites de l'art. Il dit « L'IS apparaît comme une avant-garde artistique, une recherche expérimentale sur la voie d'une construction libre de la vie quotidienne, enfin une contribution à l'édification théorique et pratique d'une nouvelle contestation révolutionnaire. » Et quand on regarde en fait ce que concrètement il montre à ce moment-là, c'est juste 5 directives, c'est-à-dire écrit en majuscule sur un fond blanc, donc dépassement de l'art, réalisation de la philosophie, tous contre le spectacle, abolition du travail aliéné. Alors ça, c'est intéressant, parce que abolition du travail aliéné, c'est peint sur un tableau de Pino Galizio. Et non à tous les spécialistes du pouvoir, les conseils ouvriers partout. Mais c'est juste des slogans, ce sont juste des slogans politiques, comme s'il était plus capable, en fait, de produire une image artistique. C'est exactement aussi à ce moment-là qu'il commence à exclure tous les artistes, mais pour une raison qui est toute pratique, c'est que la contestation d'un modèle, mais ça c'est une chose qu'on sait, la contestation totale d'un modèle ne pourrait passer que par la construction d'un autre modèle économique. Or, comme tout le monde, inclus dans un système de contestation, sauf à recréer un système parallèle de l'art, à un moment on retombe forcément dans cette idée que c'est le musée, la galerie, le critique d'art qui peut, ou la revue hein, évidemment, qui peut faire parler de l'art. Alors, Debord, il était assez logique, lui, puisqu'il s'est complètement, à ce moment-là, retiré du monde visible, on va dire. Il avait la revue internationale situationniste dans laquelle il publiait ses articles, alors qui sont tous plus passionnants les uns que les autres, hein, sur la volonté de transformer le monde, de rendre les villes habitables à échelle humaine. Bon, par exemple, c'est tout ce moment-là où il parle d'urbanisme unitaire avec Constant, où il dit que la ville doit être juste un territoire de jeu et d'ambiance, et qu'il faut inventer des villes où l'homme ne travaille pas, et juste là pour s'y promener, et que c'est la machine qui remplacera tous les problèmes de production. Mais tout ça repose donc sur une utopie sans limite, sans fin, et ça va échouer lamentablement, parce que, bien évidemment, ce modèle économique ne peut pas fonctionner dans le monde, en tout cas tel qu'il est à cette époque-là, et encore a fortiori aujourd'hui. Donc, en fait, Debord va comprendre que l'art n'est pas un outil possible de transformation de l'art, que c'est une utopie que la destruction de l'art ancien et le remplacement par des formes nouvelles pourrait substituer une nouvelle place de l'homme dans le monde. Alors, il va continuer à faire des films, il va continuer, bien évidemment, à écrire. Entre-temps, donc, Asgharian, il faut le dire, sera exclu de l'IS, bon, ça, selon les modèles qui étaient déjà pratiqués par André Breton ou ailleurs, parce qu'il a accepté de faire une exposition en Allemagne chez un marchand qui s'appelait Vandelo. Il va exclure Pino Galizio, parce que Pino Galizio, qui avait commencé à peindre à 50 ans ou 55 ans, se voit proposer par le fameux Sandberg une exposition à Amsterdam, qu'il va faire. Il y a un catalogue, d'ailleurs, très intéressant, avec un très, très joli texte. Et Debord va dire, mais attends, voilà, vous jouez le jeu du pouvoir, vous jouez le pouvoir de la légitimation. Donc, il exclut. Et voilà, c'est la fin de cette histoire où un certain nombre d'artistes étaient rassemblés autour d'un projet révolutionnaire qui visait à faire du quotidien des moments d'émerveillement, des moments de passion, de faire de la ville des territoires de jeu, des territoires de dérive, des territoires où pouvaient se vivre voilà, des rencontres inattendues, totalement...
Et où l'homme reprenait le pouvoir
où l'homme,
sur la ville, l'urbanisme... Le quotidien.
Où il pensait que, effectivement, l'international situationniste était un mouvement révolutionnaire qui allait se glisser dans le peuple, pour faire en sorte que le peuple puisse avoir par lui-même spontanément une sorte d'attitude révolutionnaire. Bref, il va se rendre compte qu'il n'y a jamais que quelques personnes qui peuvent s'intéresser à ça, et ça marque au fond la limite de l'exercice, et que dans la pratique, c'est juste un modèle impossible à mettre en œuvre. Et l'IS va à ce moment-là basculer dans un autre registre, qui est le registre plus, on va dire, politique. Mais le fait que Debord s'absente du monde va en rendre la lecture encore plus, d'une certaine manière, mystérieuse, à distance. Et là où aujourd'hui on peut s'interroger sur la façon dont on parle de l'international situationniste, force est de dire que la société capitaliste occidentale a une capacité de récupération incroyable de pensées ou de gestes qui en ont contesté fondamentalement les bases, les sources, pour pouvoir mieux les approprier et les dénaturer. Parce que, par exemple, quand on nous a bassinés, quand on nous bassine aujourd'hui sur la société du spectacle, c'est juste, excusez-moi, pisser de rire. Parce que, évidemment, aujourd'hui, quand moi je suis effrayé de voir, on en parlait hier, la façon dont on nous fait croire que, voilà, on communique avec tout le monde en temps réel, mais plus on communique par Internet, moins on dit bonjour à son voisin. Donc aujourd'hui, la façon dont la société capitaliste arrive à secréter sans arrêt des images en temps différé est une chose qui, sans doute, Debord, bon, il s'est flingué, mais aujourd'hui, il ne pourrait pas supporter de ça. Quand il dit que le spectacle sera de toute façon le stade ultime de la marchandisation de la société capitaliste, je crois qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est totalement gouverné par...
Spectaculaire.
Oui, mais c'est même pas du spectacle. Enfin, je veux dire, quand il suffit de sortir dans la rue, de regarder les adolescents. Enfin, là, on est vieux cons, hein, je le dis tout de suite, mais j'assume ma position de vieux con. Mais quand on va dans la rue, moi, je suis frappé. Je veux dire, quand je vois ces adolescents, ils sont 4 ou 5 assis sur un banc, mais ils se parlent pas. Ils sont sur leur téléphone à dialoguer avec je ne sais qui, je ne sais où, Enfin bon, il y a une espèce comme ça de diffraction complète de la relation à l'autre. Alors évidemment, parler d'international situationniste et de ces choses-là, on est complètement décalé. On est complètement en dehors de cette réalité purement, pour le coup, capitaliste. Moi, j'aimais beaucoup quand Debord, quelque part, il dit... à propos de la psychogéographie, dit la psychogéographie, c'est un état dans lequel on doit être pour renverser le monde. Nous ne l'avons pas cherché dans les livres, on l'a trouvé en errant. Et donc on est là dans une attitude qui n'a rien à voir avec celle dans laquelle aujourd'hui nous sommes incités, je dirais, à vivre. Cette idée de la perte de temps, la perte de repères, c'est exactement le contraire de ce que nous pouvons aujourd'hui expérimenter.
Bah, surtout là, en venant par exemple du centre-ville jusqu'à ici, on est samedi après-midi, il fait beau, c'est sûr que tous les gens ont le même trajet, ils vont tous dans les mêmes magasins, ils vont tous consommer. Voilà, donc c'est, aujourd'hui, les centres-villes ne permettent plus cette errance justement souhaitée par les situs, c'est absolument impossible. Néanmoins, moi, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire ce que tu dis c'était un modèle, un schéma complètement utopiste, mais qui a été récupéré de façon déviante par le capitalisme et le libéralisme. Mais ce n'est pas totalement déviant, c'est-à-dire que cette réintroduction de l'art, par exemple, dans la ville, aujourd'hui, on sait bien que les villes sont devenues des musées à ciel ouvert, puisqu'il y a de la commande publique énormément, il y a des artistes qui interviennent dans les villes, puisque la réhabilitation des cœurs de ville, et Poitiers en est un exemple frappant, mais je parle de Poitiers, toutes les villes que j'ai traversées sur la carte du Tendre sont au même registre, hein, que ce soit Niort, à part Saint-Pierre-des-Corps qui n'a pas été réhabilité, mais peut-être la gare régulièrement. Mais voilà, il y a quand même ce rapport à la ville... ce projet qu'avaient les situationnistes, que la ville devienne un espace où l'art pouvait s'exprimer et où le ludique était en permanence réintroduit, Aujourd'hui, le centre-ville est un espace de loisirs où des activités ludiques vous sont proposées et où l'art en permanence est soumis à vos yeux et à votre regard.
La question qui est, qui a été celle que Debord avait bien pressentie, hein, c'est comment aujourd'hui, en fait, la notion de spectacle qui touche, qui est très large, hein, c'est pas le spectacle de théâtre, c'est le spectacle en général, est organisée de manière à susciter la passivité. Et ça, ça a été une de ses préoccupations essentielles. De dire que voilà, la multiplication à l'infini de spectacles, alors ça va, la télévision, le cinéma, les vitrines, tout ça, organise en fait une passivité généralisée. Et au fond, la ville moderne, aujourd'hui, c'est ça. Et évidemment, quand on prend, alors Poitiers, c'est peut-être un exemple que je ne connais pas suffisamment, mais quand on va dans des villes historiques, qui ont été les villes dans lesquelles Debord a vécu, qui peuvent être par exemple Venise, il a vécu quelques années à Venise, aujourd'hui c'est devenu un espace où le tourisme lui-même est complètement asservi, hein, quand on voit ces énormes bateaux qui arrivent, bon, voilà, tous ces touristes qui défilent sans rien regarder, parce que la chose qui est très, toujours évidemment très frappante, enfin, là encore j'ai toujours peur d'être vieux con, hein, faut me le dire, c'est tous ces appareils de photos, quoi. Donc plus personne, enfin tous ces groupes, personne ne regarde le réel. Ils regardent l'écran de l'appareil de photo. Et évidemment, l'écran d'appareil de photo, c'est déjà la mort. Enfin bon, ça Solaire, ou Roland Barthes a très bien écrit là-dessus. Enfin sur cette notion de la photographie comme moment de la mort. Enfin bon, et c'est là où on en est. Enfin aujourd'hui, le monde n'est plus qu'une espèce d'image complètement déréalisée. Et donc toute l'utopie situationniste, pour le coup, qui était à l'opposé de ça, qui était vraiment l'idée de retrouver une sorte de directivité, enfin d'immédiateté aux choses, a lamentablement échoué. Enfin, pour moi, c'est à relire comme ça. Bon, je n'ai pas très bien préparé aujourd'hui parce que ça me fait mal au cœur. Enfin, je veux dire, quand je reprends tous ces textes, ils sont d'une intelligence. Parce que, entre parenthèses, Guy Debord est tout de même pour moi, je pense, le plus grand écrivain du XXe siècle. Et en termes d'écriture, hein, ça ne veut pas dire en termes d'idées, oui, mais il y a une façon d'écrire la langue française comme peu de gens l'ont fait, peut-être Chateaubriand.
Enfin, oh, là, et Julien Gracq, alors.
Ah ouais, bon, Julien Gracq, allez,
merci.
D'accord. Et il a cette façon, quelquefois, un peu ancienne de dire les choses. C'est vrai que quand on relit ces textes-là, c'est d'une intelligence absolument incroyable. Quand il écrit dans La société du spectacle, qui est par ailleurs un livre pas forcément très facile à lire, hein, cette thèse, mais quand il dénonce la marchandisation de la vie quotidienne, des objets, c'est-à-dire, on n'a jamais été dans un monde aussi spectacularisé, marchandisé que... voilà, jamais. On a vu à ce point-là. Donc, toutes ces théories révolutionnaires, elles sont magnifiques, elles sont belles, elles sont enthousiasmantes, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ? Une fois qu'on les a lues, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer comme expérimentation ?
J'ai même l'impression que, par rapport à Debord, les gens qui ont fait la promotion, par exemple, de la télé-réalité, tous les producteurs de télé-réalité, malheureusement, ont lu attentivement Debord, pour mettre en phase l'opposé de la pensée de Debord, c'est-à-dire de concrétiser cette télé-réalité, la réappropriation d'une télé par un imaginaire populaire et malheureusement aussi populiste, pour finalement aller totalement à l'opposé de la pensée de Debord, enfin en tout cas de l'analyse. Je pense que Debord était à la fois politique et à la fois il a eu cette intuition géniale de sentir ce qu'allait devenir, par exemple, l'univers télévisuel, hein, société du spectacle par excellence, et par exemple, ce qui est en train de devenir aussi, tu parlais des appareils photos, enfin, cette capacité du rapport au réel tel qu'il est actuellement, et une forme de cauchemar de Debord, mais qui a été, en tout cas, je pense, promotionné par des gens qui, eux-mêmes, ont très bien lu et attentivement la pensée de Debord.
Oui, enfin, je crois que c'est oui, leur faire honneur de penser qu'ils aient pu lire Debord. Non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui est sûr, par contre, c'est Moi, il y a eu un moment qui était, enfin, que je peux raconter, qui est la fin de la vie de Debord, en fait. Bon, donc, il avait accepté de faire un film sur Canal+. Et ça avait surpris tout de même.
Défrayé la chronique.
Oui, ouais, enfin défrayé la chronique.
Quand même, ouais, ça a fait du
bruit. On va dire quelques personnes. Et l'idée de Canal+, c'était de projeter la société du spectacle. Hein, donc, qui n'a jamais été projetée. Parce que, bon, le film, bon, à part le fait qu'à l'époque, il faut savoir que, ça, c'est anecdotique aussi, mais ça, quand on, si on s'intéresse à l'histoire de Debord, comme vous le savez, donc il vivait comme ça en dehors du monde. Il sortait un livre temps en temps, bon, mais subsistait pas grand-chose dans les années 70 et 80. Et la seule chose qu'il y avait, c'était que la société du spectacle était projetée en permanence dans un cinéma d'art et d'essai à Paris, parce que la salle appartenait à Gérard Lebovici. Et donc il avait un espèce de contrat moral avec Lebovici, donc le film était projeté. Moi, je l'ai vu 2-3 fois. J'étais toujours tout seul dans la salle. Ça intéressait personne, quoi. Bon, voilà. Et en fait, quand Lebovici a été assassiné, donc Debord a décidé de retirer tous ses films. Et donc, on n'a plus eu accès du tout à aucun des films de Guy Debord entre, je ne sais plus quelle année, c'est 82, je crois, 83, l'assassinat Lebovici. Et puis, 94, 95, quand il accepte ce truc de Canal+. Donc l'idée qu'on allait pouvoir revoir la société du spectacle sur Canal+, c'était un truc, ça fait tout de même court-circuit dans la tête. Et il avait accepté, mais à condition de faire un autre film qui s'appelle donc L'art et son temps. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce documentaire, mais bon, et qui avait été fait par une journaliste appelée Brigitte, qui s'appelle Brigitte Cornan, voilà. Et entre le moment où Brigitte Cornan, qui voit Debord, discute avec lui, voit les choses se faire, hein, se monter, et le moment, la projection, il y a eu un drame. C'est que, voilà, le film a été fait, il y a eu une projection à Canal+, et moi j'étais là ce jour-là. C'était hallucinant évidemment Debord n'était pas là, hein, mais c'était hallucinant de voir comment effectivement la société capitaliste, Canal+, hein, tout ce que ça incarnait même de liberté, mais en même temps, voilà. il y avait dans la salle, il y avait 200 personnes, personne n'en avait rien à foutre évidemment de Debord, et on venait de voir un film absolument terrifiant. Parce que L'art et son temps, il y a la moitié au moins du documentaire, je ne l'ai pas revu, j'ai revu une fois depuis, mais où il avait utilisé c'est en noir et blanc, où il avait utilisé des documents de l'éducation nationale montrant comment enseigner la langue française à des petits arabes et des petits noirs. Et c'était absolument affligeant, c'était vraiment mais terrifiant, voilà, donc avec ses commentaires. Et donc entre le moment où le film a été projeté, donc qu'on appelle ça en soirée presse, et le soir, c'était en janvier, c'était programmé en janvier, il s'est flingué. Donc il s'est tué d'une balle dans la tête. Enfin bon, voilà, le 21 novembre.
On avait dit qu'on essaie d'être drôle.
Hein, oui, ouais, parce que voilà, c'était oui, parce que le piège, c'était d'une certaine manière le. Je pense hein, que le piège s'était refermé. Peut-être qu'aussi il avait des soucis de santé, puisqu'il était de notoriété publique, il était alcoolique, enfin il buvait beaucoup, il est mort d'une cirrhose, à vrai dire, enfin il souffrait trop de cirrhose. Mais en même temps, bon voilà, c'est tout ce qui a été et qui reste hein, évidemment, ces fulgurances sublimes, poétiques, plastiques. Ces éblouissements
philosophiques,
tout ça aujourd'hui reste des mots comme ça qui sont imprimés, qu'on peut lire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Et donc quand tu m'as demandé de parler de cette histoire-là qui pour diverses raisons m'a vraiment concerné, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut bien dire de ça aujourd'hui, alors que le monde est exactement devenu le cauchemar que Debord avait le premier, et tellement bien dit, tellement bien. Hein, quand le spectacle est le moment où la marchandise est parvenue à l'occupation totale de la vie sociale. Thèse 42 de la Société du spectacle. Je pense qu'on ne peut pas mieux dire et décrire, au fond, ce qu'est devenu le monde. Alors ça, c'est évidemment l'aspect politique, hein, Debord. Mais tout ça part d'une certaine conception d'un art qui serait un art totalement libéré de ses contraintes. Et là aussi, si on regarde le champ de l'art aujourd'hui, c'est juste
l'inverse,
quoi. C'est une autre histoire, mais quand on voit aujourd'hui dans les institutions, le truc le plus effrayant pour moi, c'est l'indice de fréquentation, quoi. Je veux dire, ça, c'est comme TF1, vous savez, TF1, tous les soirs dans l'ascenseur, il paraît qu'il y a tous les matins, les producteurs, ils arrivent et puis ils voient dans l'ascenseur le résultat de l'audimat. Voilà, l'audimat. Et, évidemment, celui qui est tout le temps à la queue, il est viré. Mais les expos, c'est pareil. Vous prenez Beaubourg, le Grand Palais, c'est toutes ces institutions-là, c'est sur le même modèle. Donc on va vous dire, il y a eu un million. Pour vous dire une anecdote relativement récente, on parlait de quelqu'un qui était. Au Centre Pompidou, qui a eu la bonne idée de m'interroger sur ma façon de penser il y a 2 ans. C'est une dame qui a eu des soucis avec les taxis, là. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, où je critiquais, si j'assumais contradiction, j'avais été conservateur en chef des collections à Beaubourg. Hein, donc, chacun ses contradictions. Je mettais en doute toute cette volonté de rendre, que le Pompidou s'ouvre au peuple, leur volonté, voilà, me prétendant que le Pompidou mobile, c'était une grande avancée dans la meilleure connaissance de l'art. Enfin bon, c'était juste une escroquerie. Enfin bon, et je lui disais ça, et donc je contestais donc le modèle de production des expositions à Beaubourg. Et d'un seul coup, elle me dit, mais enfin tout de même, vous pouvez pas dire ça. Il y a énormément de gens qui viennent à Beaubourg. Prenez l'exposition Salvador Dali il y a 2 ans. Vous vous rendez compte, monsieur, 900 000 visiteurs. Et là, j'ai regardé, j'ai pris un air, mais j'ai fait... J'ai dû être déçu. Alors, comment ça, 900 000 visiteurs, c'est... Enfin, bah oui. Avec, je sais pas moi, 3 Ferrari et 2 femmes à poil, vous auriez fait 1,5 million. Hein. C'est sûr que ça a acheté un froid, quoi, voilà. Mais... C'est ce modèle-là est malheureusement celui qui aujourd'hui justifie l'art d'une certaine manière, dans les institutions, j'entends. Donc,
mais l'institution est ce qui permet à un certain art d'être justifié et légitime.
Oui, mais pour rester optimiste, on peut peut-être voir hors institution. Et
alors,
là, je vais revenir voilà. aussi
parce
sur cette notion.
Parce que les situs, ouais, c'était quand même un mouvement underground.
Oui, c'est ça. Je crois que la question était là. C'est qu'on interroge en dehors du cercle ce qui peut ramener un petit peu de vitamine progressivement à ce cercle, et en tout cas faire preuve de vitalité, pas en arriver au constat, parce que moi, je le prends comme une forme de provocation quand Debord disait « le cinéma est mort ». On pourrait dire « l'art est mort », mais on sait bien que non. Et où se situe cette vivacité? Et moi, je voudrais t'interroger sur la question aussi de la psychogéographie. Quelle dynamique peut s'établir justement entre cette question de l'art et de la dérive, hein, c'est les mots qui ont été employés, de l'errance et du rapport à la psychogéographie et l'envie de créer, d'être dans l'art, d'être...
Je pense que c'est pour le coup, je pense que c'est très compliqué. Voilà.
Oui.
Je pense que si on considère qu'il y a un domaine qu'on appellera l'art existe encore, je suis pas sûr que les formes de l'art que l'on connaît soient les formes les plus appropriées, parce que l'art, n'importe quelle œuvre d'art, hein, que ce soit Picasso, Jeff Koons ou d'autres, à un moment c'est toujours il y a un moment de la production, il y a un moment de l'exposition et il y a un moment de la marchandisation. Voilà. Comment échapper à l'un, enfin, au moment de la marchandisation, c'est très compliqué parce que les artistes, dans un monde capitaliste, doivent vivre avec les règles du capitalisme. Alors, sauf à vouloir renverser le modèle capitaliste, je vois pas très bien comment on peut échapper à cette règle implacable. Après, quant au mode de vie, alors évidemment, là, il y a un grand domaine qui est le grand domaine assez effrayant que les situationnistes avaient bien dénoncé, c'était le système de l'habitat, de l'urbanisme. Quand effectivement Debord et Constant réfléchissent à un nouvel urbanisme, c'est bien un urbanisme de l'ouverture, c'est bien un urbanisme suscitant l'errance, la dérive qu'ils pensent. Quand toute leur pensée sur le mouvement, le nomadisme, c'est ça. Sauf que l'organisation du monde aujourd'hui fait que, sauf à avoir une pratique personnelle qui échappe aux contraintes du monde dans lequel on est, je ne vois pas très bien comment un système pourrait être mis en place. Alors, il y a des contre-modèles, mais qui sont alors des contre-modèles totalement alternatifs, qui peuvent être les communautés en Ariège, l'économie du potlatch qui existe, par exemple, dans les Pyrénées. Hein, il y a des vallées où se sont construits des systèmes d'échange, mais on voit d'ailleurs que le fisc commence un peu à s'interroger sur ces systèmes d'échange. Mais dans le monde aujourd'hui, enfin là, je suis pas là pour faire un discours politique, mais c'est effectivement le contrôle social n'a jamais été aussi fort, aussi puissant et tous les réseaux. Enfin, plus on communique, vous le savez mieux que moi, plus on communique par Internet, par téléphone, plus on est fliqué. Enfin, je veux dire, quand vous regardez aujourd'hui les programmes, il suffit de vous taper un truc sur Google. Vous avez, voilà, 2 mois après, vous avez les publicités qui commencent à arriver. Enfin bon, moi, ça me... Bref, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Alors, bon, c'est vrai que la lecture de Debord à la fois m'enchante et me désespère, parce que je me dis, voilà, c'est une belle langue. Il y a effectivement des possibilités... Alors, à l'intérieur de l'institution, trouver des espaces de liberté, je pense que oui, on peut, heureusement, enfin, sinon j'y serais pas, ou j'y serais plus, mais on peut encore faire des expositions qui échappent, mais je vais vous donner un exemple très, très personnel, enfin, ou professionnel, j'entends, moi, voilà, donc, vous savez, je m'occupe du château de Waron depuis des années, voilà, j'ai pris comme règle de ne pas dépenser 1 euro en ce qu'on appelle communication. Donc, en 14 ans, on n'a pas dépensé 1 euro en communication. Voilà. Enfin, on fait des catalogues, ok, on fait des communiqués de presse, alors ça ne nous coûte pas cher parce qu'il suffit de le balancer sur Internet, ça circule, mais voilà, ça s'arrête là. Et je vois bien que ce type de comportement, ça n'empêche pas que le château continue à exister, qu'on continue à faire des expositions, mais voilà, il y a quelques énarques à l'intérieur du périphérique qui disent, tiens, qu'est-ce qui se passe à Waron? Alors, on va aller voir. Alors il m'appelle en me disant, ben, on veut venir voir ce que vous faites. Je dis, ben, pas de problème, avec grand plaisir, on vous accueille. Donc la question, c'est comment on fait pour venir à Waron? Ah ben, je dis, c'est simple, vous prenez le train, TGV jusqu'à Tours, après vous avez un corail jusqu'à Saumur, et après vous prenez le bus jusqu'à Tours, on vient vous chercher. Donc 14 ans d'expérience, il n'y en a pas un qui est venu. Non mais voilà, bon, c'est un moyen à l'intérieur d'un système de... Ceci dit, par rapport à ta question, je crois que c'est la question qui se pose pour tous les artistes aujourd'hui. C'est un artiste, son travail doit être vu. Ou un scientifique, il doit publier pour être vu, pour être lu, pour être connu. Voilà, donc c'est comment, à l'intérieur de ce système de légitimation, système duquel nous participons tout de même. Enfin, oui, bon, voilà.
On creuse un peu la question de la journée aussi. C'est en quoi l'institution joue son rôle entre une institution rigide et une institution un peu plus souple qui va travailler sur ces zones de liberté. La métaphore du déplacement à Waron est extrêmement intéressante. Quoi. C'est aussi la liberté des gens liée à la volonté aussi à un moment donné de visiter les lieux, d'aller dans les lieux. Donc on voit bien que c'est dans les deux sens que le phénomène de rencontre peut se produire. La volonté de l'institution de donner des zones de liberté et d'expression, et de l'autre côté, l'envie, alors plus ou moins déclenchée dans certains cas, mais espérons que cette envie soit sur une base de liberté pour que les gens viennent vers les lieux qui sont censés les accueillir.
Je pense que ça, je pense qu'il ne faut pas. Heureusement, il n'y a pas que les grosses institutions qui existent. Enfin, voilà, c'est simplement, il faut accepter cette idée que, et ça aujourd'hui, ça devient très difficile. Enfin, nous qui sommes plutôt dans l'institution, parce qu'on a une contrainte qui est ce qu'on appelle le politique. Alors, qu'est-ce que c'est que le politique aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait la légitimité du politique ? Bon, c'est l'élection. Alors, donc, à partir du moment où c'est l'élection, il doit rendre compte devant l'électeur. Alors, si le politique n'accepte pas d'avoir sa marginalité, d'avoir sa zone de liberté d'expression, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, il y a des menaces très claires. Enfin, bon, je travaille aussi dans le Nord. Le maire de Tourcoing, je ne sais plus comment il s'appelle, là, on entend que lui, le mec, il a tenu il y a un mois des propos sur l'inutilité du musée. C'est un joli musée, le musée de Tourcoing, musée Jeune Leroy, il s'appelle ça. C'est la même conservatrice depuis 15 ans. Elle fait un travail vraiment bien, à sa manière, discret, enfin bon, mais vraiment juste. Bon, d'un seul coup, un espèce de pachyderme arrive et dit c'est inutile. Voilà, donc l'art est inutile, hein, pour voir tout ce qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut être en dehors de ce système-là. Alors il y a des lieux, comme se dit, l'expérience d'Alexandra est intéressante. Dire, d'un seul coup, mettre comme ça au sol une réalité. J'allais dire sentimentale, personnelle, humaine, sensible. Est-ce que les gens regardent vraiment ? Moi, c'est à chaque fois, c'est toujours la question que je me pose. Hein, mais c'est une façon d'être. Alors voilà, c'est une façon d'être et c'est là. Et c'est là, donc, dont acte, formidable. Voilà, donc il y a encore des espaces, mais qui sont extrêmement fragiles. Et quand on est... Jean-Luc, ça te concerne, ça me concerne. Quand on est à l'intérieur de l'institution, à un moment, on est confronté à tout de même cette pression du politique, comme Madame Machin, qui me dit 900 000 visiteurs pour Salvador Dali, c'est formidable. Mais j'avais juste envie de lui dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, je lui ai dit après, c'est vrai, d'un seul coup, je serais très curieux de savoir une heure après ce que le spectateur qui a vu l'exposition Salvador Dali a en tête. Hein, voilà. Mais... C'est des contradictions, ça, c'est des trucs très compliqués. Jeff Koons, par exemple, mon truc sur Jeff Koons, c'est... Vous savez quelle est la durée moyenne de visite scientifique, enfin, de l'intérieur, source intérieure de Beaubourg. Quelle était la durée moyenne de l'exposition de visite de l'exposition de Jeff Koons à Beaubourg ? Voilà, 16 minutes. 16 minutes. 16 minutes. Et sur les 16 minutes, il y en avait 6 ou 7 pendant lesquelles le visiteur se mettait à côté du Popeye. Là, il avait fait Popeye, voilà. Donc faisant la même chose, et où devant le cœur rouge, hein, en train de se photographier en selfie, je sais pas quoi, voilà. Là, je dis, on tombe le... Voilà. Sauf que, voilà, c'est 25 millions d'euros, 25 millions de dollars le cœur, sauf que c'est... Et on parle que de Jeff Koons, et je lis, Beaubourg a pas d'œuvre de Jeff Koons, c'est un scandale. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors les situs, voilà, eux, en fait, quand ils commencent à se réunir, ils contestent ce modèle dominant des surréalistes, des musées, tout ça. Ils inventent une autre pratique. Et d'abord, il dit le cinéma est mort, mais après, il va faire 6 films à sa manière, qui seront vus par pas grand monde. Alors, est-ce que c'est dans la marginalité ? Est-ce que c'est dans l'underground ? Est-ce que c'est dans l'ombre que les choses doivent se vivre ? Peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que quand on est dans le champ de la culture aujourd'hui, ce que j'appelle le syndrome TS1, est une chose qui menace vraiment la liberté d'expression. En tout cas, dans l'art, c'est clair. Moi, j'ai toujours refusé dans l'institution de parler de chiffres, de fréquentation, parce que, voilà, les journées du patrimoine, quoi. Mais c'est quoi ce truc de... Moi, j'appelle ça, c'est la journée des radins, mais c'est quoi ce truc-là ? Il y a du monde, ben oui, mais c'est pas compliqué de faire venir le monde. Enfin, encore une fois, vous ouvrez les portes gratuitement de l'Élysée, tout le monde va rentrer. Donc c'est quoi c'est comme si le monde signifiait que ça avait du succès. Mais quand tu vois... la radio, la littérature, maintenant on juge ça par le nombre de bouquins vendus. Mais merde, quoi, merde. Qu'est-ce qu'on... Enfin bon, voilà. Et tout ça, C'est le travail aliéné, le travail aliéné du critique, le travail aliéné de, parce que le critique chez, sur Canal+, il est obligé de, enfin, je ne sais pas si vous avez vu la censure maintenant, donc on ne peut plus faire de documentaire. Enfin bon, bref, il y a tout un truc très... Dans une société de communication où les réseaux fonctionnent en temps réel extrêmement vite, il n'y a jamais eu en réalité autant de contrôle de la pensée. Bah,
ça me fait penser à cette phrase de Patrick Lelay, qui est à l'époque le directeur de TF1 sur le temps de cerveau disponible, qu'on a un petit peu oublié, mais qui était quand même très symptomatique.
C'était la captation de l'attention pour organiser la passivité. C'est ça le but de la télé aujourd'hui. Et ou du smartphone. Enfin bon.
On appelle ça le capitalisme cognitif maintenant.
Le quoi ?
Le capitalisme cognitif, c'est le nouveau mot pour appeler cette prise de l'attention par ces objets numériques. Est-ce que il y a des questions dans la salle ?
Moi, j'en ai une. Est-ce qu'on savait de quoi il vivait, Guy Debord ?
Ça a toujours été un peu un mystère. Donc, en tout cas, du temps des éditions Champs Libres, il vivait de la rente que lui versait Lebovici, qui lui avait aussi donné d'ailleurs une maison, enfin il prêtait une maison en Auvergne, à Champfort, c'est là où il est mort d'ailleurs. Après.
Ça aide à penser la Révolution quand même aussi. Par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire...
Ceci dit, c'est un type qui touchait des droits d'auteur. Il vendait tout de même des livres.
Ouais.
Donc, il touchait ses droits d'auteur. C'est un type qui vivait...
Mais ce n'est pas ce qu'il faisait vivre.
Si. Ah. Il vivait modestement. Il avait quelques amis qui lui amenaient... il aimait bien la nourriture, il aimait bien le vin. Il avait toujours des amis qui l'entretenaient un peu. Mais bon, c'est... Un type qui il a jamais une maison, il louait des appartements, on lui prêtait des appartements. C'est ce qu'a c'est l'histoire de Canal+, quoi, à la fin qui est un peu bon. Moi, ce que j'ai lu le contrat, les clauses, c'était très précis. Par exemple, la somme qu'il avait perçue Canal+ était assez élevée pour l'époque, hein. Mais il avait demandé à ce que ce soit payé en je sais plus 4 ans. Pour pouvoir, parce qu'il devait déclarer ses revenus pour être juste au maximum qui lui permettait de ne pas payer d'impôts. Voilà, donc il ne voulait surtout pas payer d'impôts. Alors après, quand on voit que un très très beau livre de Guy Debord qui s'appelle Mémoire, je ne vais pas parler, mais c'est un livre qu'il a écrit en 1957, hein, qui est, c'est très difficile à trouver parce qu'il y avait une très très belle réédition chez Pauvert, mais qui a brûlé. C'était un livre qu'il a publié donc en 57 et qui est constitué uniquement de fragments de journaux découpés. Alors c'est des dessins, des phrases qui ensuite ont été super. Enfin, il y a eu Asgarion a fait une intervention de peinture dessus. Voilà. Et c'était un livre qui avait comme caractéristique d'avoir une couverture en papier de verre. Parce qu'il ne supportait pas la présence d'autres livres à ses côtés. Donc c'est très, très, très difficile de trouver un exemplaire de ce livre avec le papier de verre. Moi, j'en ai, ça est drôle d'ailleurs, enfin je dis ça, j'en ai trouvé un exemplaire qui était dans une poubelle à Beaubourg. Incroyable. Poubelle de la documentation. Ils n'avaient pas vu ce que c'était. Ah oui, moi je ramasse tout dans les poubelles, hein, ça c'est clair, voilà. Donc, c'était cette façon qu'il avait, lui, de dire les choses, mais avec un rejet, au fond, du système d'édition classique. Ça avait été imprimé au Danemark, d'ailleurs, ce truc-là. Voilà. Mais il a toujours, tout de même, eu des ressources qui provenaient de son travail d'auteur, enfin d'écrivain. Ouais, ouais.
Et justement, à ce sujet, à Poitiers, on a la chance d'avoir... une fanzinothèque, donc dédiée aux fanzines. Et dans ces modes d'édition alternative, on ressent quand même une influence forte de l'international situationniste, en tout cas dans les fanzines politiques underground des années 80-90. Est-ce que lui s'est intéressé à cette époque ou est-ce qu'ils ont utilisé dans l'édition les modes fanzines, enfin ces choses un peu...
Il y a des tracts qui sont le retour de la colonne du Ruti, par exemple. C'est un track très connu d'une bande dessinée d'un western. Et après, ils ont enfin, alors c'est pas les fanzines, mais dans l'idée du détournement, il y a eu des tas de choses. Hier, on parlait du film La dialectique.
Peut-elle casser des briques ?
Ouais, voilà, c'est ça. La dialectique peut-elle casser des briques ? C'est un film de kung-fu qui est complètement détourné. Donc, on a les images de kung-fu, mais les dialogues, c'est un dialogue vraiment situationniste. Enfin. Post-marxiste et hegelien, donc c'est effectivement assez drôle.
D'abord, ils avaient les tracts surréalistes, donc ils arrivaient aussi d'ici, c'est-à-dire ils avaient envie de se rebeller aussi contre le surréalisme, et le surréalisme avait produit énormément de tracts. Bah, eux, c'était un peu dans une lignée historique, il y avait ça quand même.
Voilà, là j'ai des trucs, des tracts avec des photos de femmes olé olé dans lesquelles. Voilà, mais là, c'était en espagnol, Marx. D'abord, il avait une capacité assez incroyable. Mais enfin, il n'y avait pas que lui, parce que Jorn aussi. Hein. Par exemple, il y a tout un travail intéressant de Jorn, d'arrachage d'affiches avant Raymond Hens. Raymond Hens, il a commencé, mais ce n'était pas tout à fait la même manière. Mais à la fin des années 50, travail d'arrachage d'affiches. Oui, Villeglé, ouais. Non, c'est des gens qui avaient cette capacité tout de même à s'intéresser beaucoup aux arts mineurs pour continuer aussi, eux, à revitaliser, en fait, une idée populaire de l'art. La grande crainte toujours de Debord, c'était que l'IS soit considéré comme un truc germano-pratant. C'était son angoisse. Il disait d'ailleurs que l'IS devait se dissoudre dans le peuple et que, dissoudre dans le peuple, elle sera comme un poisson dans l'eau. Voilà, c'est ça la phrase exacte. Mais l'IS n'a jamais été, malheureusement, dissoudre dans le peuple.
Jean-Luc ? Deux
choses. Alors tout d'abord, un renseignement pratique. Il existe un endroit à Paris très confidentiel qui est une librairie, qui s'appelle la librairie à Balzac à Rodin, tenue par un de mes amis, qui a régulièrement des documents du Liès, de bord. Donc il faut.
C'est ton caractère fétichiste.
Ah non, mais. Donc ça, c'est dans une cave en plus. C'est une librairie qui est dans une cave rue de la Grande Chaumière au carrefour Vavin. Donc voilà, si on trouve aussi toutes sortes de choses comme ça. Et puis alors, je trouve que finalement, au départ, c'est un projet qui pense quand même le collectif, enfin, qui pense un changement du monde. Et finalement, ça fonctionne pour l'individu, peut-être exclusivement, parce qu'on n'est pas obligé. Moi, je vais à Venise, je marche 10 minutes et puis je retrouve l'errance sans aucun problème. Donc je pense que c'est peut-être beaucoup plus un modèle finalement pour l'individu que pour le collectif. Et il y a peut-être une dimension un petit peu mélancolique, mais que je trouve, enfin moi, je ressens un peu comme ça, quoi.
Bah, je pense que tu as parfaitement raison. À chacun de vivre sa pratique, esthétique, philosophique, voire révolutionnaire, hein, bien entendu. Ce qui est intéressant dans tous ces textes de Liès, et ou les textes de Debord, hein, je précise que tout ça a été réédité magnifiquement chez Quarto Gallimard, où il y a même des textes que moi j'avais jamais vus dans les années 70 ou 80. Bref. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est tout même l'analyse politique collective qui fait du monde. Tu vois, je veux dire, le monde, il pense le monde, il pense la ville, il pense la société en général, et qu'on lise les textes de Asger Jorn, tous ces artistes, ils avaient tout de même comme ambition de transformer le monde. Ça reste tout de même une chose tu vois, totalement aujourd'hui dépassé, hélas. Enfin, je veux dire, quand tu regardes le monde de l'art aujourd'hui, est-ce que tu crois une seule minute que Jeff Koons, il veut transformer le monde ? Non, voilà. Est-ce que tu crois une seule seconde que Damien Hirst veut se transformer ? Non, voilà. Donc ça, c'est intéressant, parce que ces gens-là pensent sincèrement, je pense qu'ils sont sincères, que l'art peut être effectivement un outil de transformation du monde. Alors, bien évidemment, c'est un leurre. C'est un leurre total.
Il peut s'en saisir s'il veut.
Voilà, l'individu peut se saisir de ça et effectivement mener sa propre errance, sa propre dérive. en assumer ses contradictions comme les uns et les autres, on peut le faire. Enfin, bon, je pense que tout artiste aujourd'hui qui voudrait transformer le monde peut à sa manière tenter dans sa propre pratique. Hein, ou nous, dans les institutions, exposer machin plutôt que machin parce que voilà, ça va un peu décaler les choses, refuser... comme moi, je le refuse depuis 15 ans de faire le budget de communication. Quelqu'un qui me parlait tout à l'heure du musée de la piscine à Roubaix, 52% du budget, c'est la communication. Quoi. Bon, voilà. Alors on dit que c'est un musée très populaire, ouais, formidable, très bien. Ouais. Et à chaque fois, je dis, mais vous pouvez me citer une seule œuvre d'art du musée de la piscine ? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse me citer une seule œuvre d'art du musée de la piscine à Roubaix. Jamais. Bon. Est-ce, vous pouvez expliquer ça ? Est-ce que je comprends ?
Vouloir innover l'art est quelque chose qui est ressenti comme un danger pour la classe politique actuelle.
Oui.
Ça, c'était une première chose que je voulais dire.
Puisque l'art est hautement politique et que la politique a son influence sur l'art... Oui, bien sûr, et que, enfin voilà, tout ça fait partie du même panier, comme le disait tout à l'heure Paul Hervé assez justement. L'art aujourd'hui, c'est le libéralisme à outrance, c'est le capitalisme, enfin voilà. Donc en effet, les politiques sont quand même d'accointance avec le milieu de l'art. Donc oui, rénover ou innover dans le milieu de l'art, ça paraît dangereux pour les classes politiques.
D'un état, je dirais, ultérieur et suivant. Alors, il est clair que l'art des années 1950 est mort, au sens matériel du terme, pour donner naissance, hélas, à ce que vous nous avez développé, avec vous, ça m'a beaucoup intéressé, à un art actuel qui est plutôt, pour aller vite, je dirais, du côté du pathologique.
Moi, juste là-dessus, je voudrais dire, on a parlé de cet art-là qui est un art dominant par rapport à tout ce qu'on a évoqué juste avant, mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que celui-ci.
Heureusement.
Ouais. Non, enfin, moi, je, même si à un moment j'ai été financée sur mon projet par les institutions et que j'ai été amenée à travailler de concert avec elles, il n'empêche que je crois pouvoir dire que j'ai créé librement. Alors peut-être que là, c'est une utopie totale. Et peut-être que je vais retourner m'allonger sur un divan de psychanalyste.
Non, mais l'Institut...
C'est pas du tout mon propos.
Non, mais...
Là, par rapport à ce que vous dites... Non, mais évidemment, je suis... c'est la formule, le temps, etc. Mais donc je caricature un peu les choses dans ce que je dis, forcément. Mais heureusement... Il n'y a pas que les grosses institutions si vous voyez, qui montrent de l'art. Il y a des tas d'endroits, ailleurs, des centres d'art, je sais pas, même des petites galeries, où Dieu merci, il y a des formes d'art, où il y a des expressions, des paroles, des photos, des textes. Voilà, l'exposition d'Alexandra à la Villa Perrochon. Villa Perrochon et, si vous voulez, à Beaubourg, personne ne sait que ça existe. Hein. Donc... D'une certaine manière, heureusement, c'est un monde extrêmement diversifié. Là où l'inquiétude règne, en tout cas pour moi, c'est que l'institution, à savoir l'appareil, comme disait autrefois, comment il disait ça, l'appareil idéologique d'État, ça, aujourd'hui c'est un peu mal dit, mais Il y a un peu de ça. Tout de même, il est contrôlé par des gens qui ont des attentes de fréquentation, des attentes économiques, des attentes purement capitalistes. Et donc, du coup, même à une échelle qui est peut-être la ville de Niort ou la ville de Tourcoing, parce que je prends l'exemple de ce maire de Tourcoing, ça devient terrifiant, parce que lui, son modèle, c'est tout de même le fait qu'à Beaubourg, ils disent 900 000 personnes pour Salvador Dali. Et ils pensent que le succès d'une exposition, ça passera par les fréquentations de l'exposition Eugène Leroy à Tourcoing. Voilà, c'est juste, là, on sait que l'art, dans ces conditions-là, n'existe plus. L'art est mort, enfin, je veux dire, parce que évidemment, c'est sûr que l'art devient un luxe, et donc comme luxe aujourd'hui on n'en a plus les moyens, ben, on va arrêter de faire de l'art. Le risque il est là, mais c'est parce que les critères sont bon. Il y a tout de même d'espoir. Je vais vous dire, l'espoir ça vient du monde de l'édition, dont on nous annonce tous les 5 ans l'effondrement à cause d'Internet ou de l'électronique ou je ne sais quoi. Et ça, c'est tout de même assez incroyable. En tout cas, en France, c'est pas vrai partout, mais en France, c'est tout de même incroyable de voir qu'il y a encore des maisons d'édition qui se créent, il y a encore des librairies, pas partout, hein, il y a des villes où il n'y a plus de librairies, mais enfin, il y a des villes où il y a encore des librairies. Alors je me dis, la littérature montre que, ou l'édition plutôt d'ailleurs, l'édition montre qu'il y a tout de même des... Il n'y a pas de crainte à avoir, que d'une certaine manière, l'art trouvera toujours des espaces pour exister, que de ce point de vue-là, d'ailleurs, les villes, d'une certaine manière, pas les campagnes, mais les villes sont des espaces où il y aura toujours des lieux à occuper dans lesquels les artistes pourront travailler. Le problème, c'est effectivement quelle est la place de l'art, quoi. Je veux dire, et là, c'est une question qui est très compliquée, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on va voir au musée? Voilà, cet été, je vais voir l'accrochage à Beaubourg des nouvelles collections. Enfin, des collections d'art contemporain, ils ont refait tout l'accrochage. C'était début août. C'était absolument effrayant, quoi. D'un quart d'heure, je suis sorti parce que j'étais entouré de millions de gens avec des appareils de photos qui n'en avaient strictement rien à foutre des œuvres et qui se photographiaient devant les œuvres. Des touristes égarés là parce qu'il faut aller à Beaubourg, comme on, à Venise, place Saint-Marc. Enfin bon, je veux dire. Et ça, c'est la menace, quoi. Ça, c'est vraiment la menace totale. Parce que si l'institution n'existe plus qu'avec ça, qu'est-ce qu'on fait et comment l'art. Alors, il faut choisir le retrait comme Debord, j'en sais rien. Mais nous, en tant qu'acteurs dans l'institution. C'est pas que ça, mais c'est tout de même ce qui menace. Il y a des exemples très récents en France de musées où on a carrément viré la direction parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Donc voilà, moi en tout cas, c'est une chose qui m'interroge. Quoi. Bon. Alors que, par ailleurs, si on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, il n'y a pas cette chose-là. Hein, quand on... si on regarde la Suisse, par exemple, qui est alors là l'hyper-méga-top pays capitaliste de la planète, entre Bâle et Zurich, vous avez le cœur de ce qu'on appelle le marché de l'art. Là. Là, tout se joue là. New York à côté, c'est la rigolade. Et vous avez là tout de même des endroits, des lieux où des gens qui sont des prescripteurs, mais qui acceptent la part de risque de l'art. Non pas que dans la consommation, je dirais, capitalistique.
On gardera quand même ces notes d'espoir. Je ne sais pas, s'il y a... Ah, une question. Vas-y.
C'est une question curieuse. C'était juste pour savoir si, dans l'histoire de la création artistique, il y avait des groupes d'artistes qui avaient réussi, ensemble, à bousculer l'institution, le monde. Est-ce que ça a existé, quoi?
Si l'utopie avait abouti.
Est-ce que ça a existé? Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que j'aimerais bien que vous...
Oui, bien sûr, oui. Oui, il y en a, oui. Mais à leur manière, si vous prenez les impressionnistes, hein. Quand les impressionnistes peignent, ça n'intéresse personne. Qui on expose à l'époque? Bouguereau. Toutes les récompenses, c'est Bouguereau, tous les grands peintres pompiers du 19e. Ah ben, ils ne bousculent pas les politiques, pour le coup. Alors oui, alors là, vous avez raison. Ils ne vont pas changer le monde, eux. mais ils vont changer le regard que la société porte sur l'art. C'est-à-dire on passe dans une... Parce que effectivement, quelques marchands éclairés se rendent compte qu'il y a là sans doute une appréhension moderne du monde.
Voilà.
Mais il n'y a pas de projet politique. Là, c'est... Si, si, des projets politiques, il y en a eu, bien sûr. Le futurisme a été un projet politique. Le futurisme a été un projet politique. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de s'épanouir. La Première Guerre mondiale est arrivée. Après tout de même la Première Guerre mondiale, des mouvements comme... 17, c'est Dada. Hein, Dada, il y a eu aussi un projet... Il y avait un projet politique dans Dada, qui a tout de même amené, là aussi, dans l'art, à l'intérieur de l'art, des grands changements. Mais maintenant, dans le monde, dans l'organisation du monde, Fluxus, oui, mais Fluxus, c'est pareil. C'est resté à l'intérieur de l'institution, entendu au sens très large du terme, de l'institution muséographique. Mais c'est vrai que si on prend Dada ou si on prend Fluxus, voilà, des formes, ça donnait naissance à des formes d'art totalement à rebours de l'institution. Les performances, alors on pourrait raconter une histoire des performances dans les musées.
Puis on peut dire que Dada, ça a sauvé des gens. Vraiment, les gens, c'était le moment de la guerre, ça a sauvé des gens. Donc ça, c'est fort quand même. C'était aussi un projet politique. Ils ont fui, certains, beaucoup. Ils sont partis, ils se sont retrouvés en Suisse, la plupart. Mais ça a sauvé des gens, ouais.
Donc, c'est né en Suisse, hein, Dada.
Oui, et donc les gens sont partis à Zurich pour rejoindre le mouvement. Mais parce qu'il fallait sauver leur peau aussi, ils l'ont fait comme ça. Donc... Et là, il y avait un projet politique.
Après, il y a des formes d'art qui... Si on reprend justement la Première Guerre mondiale, après, si vous prenez des groupes comme De Stijl, par exemple, De Stijl, la réflexion de ce groupe hollandais sur l'habitat, sur les intérieurs, articulée avec toute la pensée du Bauhaus, ça a donné une autre forme d'habitat, ça a donné une autre façon... Des projets d'architecture particuliers. Bon, c'est juste un tout petit exemple où le fait que des artistes travaillent avec, même on peut dire, la sécession viennoise, c'est pas dans le sens révolutionnaire, mais la sécession viennoise, c'est comment aussi des artistes, des architectes, Joseph Hoffmann travaille avec Klimt, travaille avec Levinas Werkstätte, donc ça fait apparaître de nouvelles formes de décor intérieur. Bon, là, au service d'une économie ou d'un monde politique classique, bourgeois, mais qui abandonne l'ornement pour des intérieurs stricts. Donc, ça a transformé là aussi, ça a transformé complètement l'architecture. Là où, à chaque fois, où ça échoue, c'est dans l'utopie qu'on voudrait renverser, au fond, l'ordre des choses, quoi. Renverser le monde. Bon. Oui, alors on est...
C'est énorme, puisque c'est l'homme qui se retrouve au centre du monde. C'est-à-dire que la perspective, c'est le point de fuite qui va devant, c'est l'infini. L'infini, il est derrière aussi. Donc ça veut dire que l'homme est tout puissant, et l'homme occidental, j'entends, et il va conquérir la planète. Donc ça, c'est un sacré renversement.
Oui, puis on peut dire que même si les projets, dans la façon dont ils ont été conçus, n'ont pas abouti, il n'empêche qu'à chaque fois, ils ont re-questionné la société, les pouvoirs en place. Il y a toujours eu quand même des va-et-vient entre les mouvements artistiques et la pensée dominante. Il y a toujours eu quand même une influence et des conséquences. Voilà, aujourd'hui, on est en 2015 et on parle encore des situs et Guy Debord. Ça a profondément marqué les esprits. Alors après, comme le disait très justement Paul Hervé, très peu de gens ont pris le temps de lire Guy Debord, de voir les films de Guy Debord, de connaître vraiment son discours, sa pensée, mais il n'empêche que il y a quelque chose encore qui existe, et il y a eu tout un tas de réponses, il y a eu plein de réponses, des très belles réponses. Et puis il y en a eu des dégueulasses, parce que le monde capitaliste et la grosse machine, c'est le mammouth, il faut être très fort et très nombreux pour le renverser, si tant est que ce soit notre désir.
Non, mais
oui, parce que en effet, il y avait aussi ça qui était sous-entendu dans ta question. C'est que c'était aussi des personnalités, des individus qui avaient une personnalité très forte. Et c'était un individu plus un individu plus un individu qui formait un groupe, mais qui se déformait à volonté aussi. C'est-à-dire que les exclusions, finalement, moi, je relisais ça il y a quelques jours où il y a eu à peu près 70 personnes qui étaient concernées par le mouvement Situ.
En 20 ans.
En 20 ans. Ouais.
Et finalement, à chaque fois, il n'y en avait presque que 10 qui fonctionnaient ensemble. Donc il y avait des exclusions, des démissions, et ça naviguait comme ça. Mais il n'y a jamais eu les 70 ensemble. Donc c'est des individus, quoi.
C'est ce que je, voilà, ouais. C'est toujours ce que j'ai dit. Exactement. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec Jean-Luc là-dessus. C'est-à-dire un livre, une exposition, une œuvre d'art. Voilà. Si effectivement une seule personne se dit tiens, voilà, ça c'est une voie, ça c'est je sais pas un espace, un territoire, ça suffit. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est, si vous voulez, ce qui est, bon, enfin, en tout cas moi qui suis plutôt du champ visuel, hein, des musées.
Du champ comme Marcel.
Marcel, ouais. Aujourd'hui, ce qui est effrayant, c'est cette consommation de l'art comme distraction. Voilà,
c'est le loisir.
C'est le loisir, quoi. Je veux dire, et ça, c'est terrifiant. Moi, pour moi, quand j'explique que pour moi l'art c'est un travail, que pour comprendre l'art d'aujourd'hui, je suis obligé de travailler. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut lire des textes, ça veut dire qu'il faut se renseigner, il faut essayer de comprendre l'histoire. Moi, je suis effrayé quand je discute, malheureusement, c'est pas mon quotidien, il ne faut pas exagérer non plus, mais enfin, ça m'arrive très régulièrement de devoir expliquer ça à des énarques. Hein. Mais pour eux, je me rends compte que tout ce qui est culture égale distraction, loisir. Le ministère de la culture, aujourd'hui, c'est un ministère des loisirs. Mais merde! Enfin non, voilà, c'est... Il n'y a plus de pensée aussi. Alors, voilà, si, heureusement, parce qu'il y a encore des livres, parce qu'il y a encore des... Mais les loisirs, si vous voulez, si le devenir du ministère de la Culture, c'est de nous dire d'aller chez Disney, ça c'est clair que ça sera sans nous. Donc, on est là et on se parle, madame. Et on parle d'un mouvement qui a eu son heure de gloire, et ces moments de pensée dont il reste des textes et que nous pouvons adapter à notre cadre de vie et faire des choix. Dieu merci, on est encore dans des situations où on a le choix. Alors moi, la grande idée révolutionnaire, transformer le monde et de mener le peuple à ses libérations, bah oui, j'ai dépassé l'âge de croire une minute que ce soit possible. Voilà, hélas. Bon. Mais je pense qu'effectivement, on peut être là, on se parle, on se regarde, on échange autour de ça, et c'est déjà vachement bien. C'est-à-dire que se dire que, voilà, ce qu'a fait Alexandra d'aller voir ces gens. Moi, j'ai été très touché hier quand je suis allé voir l'exposition à Niort, parce qu'il y avait des photos de gens que je n'ai jamais vus, je ne sais pas ce qu'ils y sont. Ils parlent de leur ville, ils parlent de leur territoire. Ils font. Voilà, c'était drôle, parce qu'Alexandra leur a demandé de dessiner leur ville. Ils ont fait des plans de ville. Et d'un seul coup, je connais un artiste qui faisait ça dans les années 60. Donc, on parle de Stanley Brown. Et donc, il y a de l'intelligence et de la sensibilité qui circulent. Et donc, c'est une micro-échelle. Et il faut accepter cette idée que cette micro-échelle, finalement, elle est vachement plus importante que la méga-échelle de TF1 qui, ce soir, va nous abrutir avec les ch'tis à Marseille ou je ne sais pas quoi. Là, ces trucs-là, bon, c'est ça, non?
Les ch'tis à Marseille, excuse-moi, non, mais je n'ai pas eu l'info.
Non, mais il n'y a pas de télé-réalité. Si vous, enfin, les jeunes, ils savent ça, mais je... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Après, vous êtes libre de faire vos choix. Vous voyez, je pense que, hélas, on est à un moment où le politique aujourd'hui est devenu une espèce de grande scène de marionnettes, hein, il faut être clair. Voilà, enfin bon, sans faire de discours politique, mais on peut le dire. Enfin, je veux dire, à la limite, quelle est aujourd'hui la limite entre. Et là, je vais être un peu provoque, mais quelle est la limite entre Mélenchon. Hollande, Sarkozy et Dupont de Saint-Aignan, on va tout de même laisser une place particulière pour les Le Pen. Mais bon, c'est, vous voyez, c'est pas interchangeable, mais à peu de choses près, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Donc, c'est assez, malheureusement, pour moi en tout cas, tout ça est une réalité avec laquelle il faut combiner. Hein. Ils sont là, on vote, Dieu merci, on a le droit de vote, on peut choisir. Ça, c'est bien. Après, votre vie, notre vie...
Non, et puis, il ne faut pas non plus tomber dans un discours totalement défaitiste, voire un peu démago. C'est-à-dire que, quand même, il y a cette espèce de pouvoir pyramidal qui existe depuis la nuit des temps. Il y a des artistes qui travaillent pour le pouvoir depuis la nuit des temps. Et en même temps, au jour d'aujourd'hui, et là, Patrick ne me contredira pas, peut-être même qu'il est, il peut abonder dans mon sens, c'est-à-dire qu'on voit autre chose qui se passe. Le socle, le peuple, Internet, et les gens sont à l'initiative de plein de projets en commun, qui sont des petits projets, qui parfois deviennent des gros projets, et qui changent aussi notre quotidien et une certaine face du monde. Moi, j'aimerais quand même rappeler ça, c'est-à-dire que l'institution, elle existe. Papa, eh ben oui, on sait qu'il nous a donné naissance, mais en même temps, il existe aussi autre chose, plus bas, en dessous, à notre niveau, et avec des projets qui ont une force, et voilà, qui ont aussi une force de frappe dans notre quotidien et dans notre vie.
Moi, très naïvement, je pense toujours et j'admire cette chanson de Patti Smith qui s'appelle « People have the power », parce que je pense qu'il y a des émergences, même dans des pays comme les États-Unis, même en Russie actuellement, il y a des collectifs et des gens qui continuent, alors sous forme sociale, ce que disait Halima, mais aussi sous forme artistique et parfois sous des formes hybrides, à envoyer encore un peu d'énergie.
Et puis les Kiss Bang Bang, enfin voilà, il y a plein d'appels à participer à des projets. Alors voilà, c'est plus sous forme de pyramide, ça se passe autrement, mais ça existe.
Effectivement, de ce point de vue-là, Internet est tout de même quelque chose d'assez, excusez-moi, hein, et quelque chose d'assez intéressant parce que vous avez accès, on a tout de même accès à des cultures ou à des livres ou à des concerts. Avant, on ne pouvait pas. Enfin, moi, j'ai connu dans ma jeunesse Radio Caroline avec le fil de cuivre que j'avais mis dans ma chambre parce que j'habitais le Nord à l'époque. Enfin, je suis originaire du Nord. Et voilà, ça, c'était des vagues comme ça. J'avais l'impression d'être méga top rebelle à écouter Radio Caroline dans ma chambre. Mais aujourd'hui, ça, il y a tout de même un accès au savoir possible, réel. Sauf que Internet, on le sait, 90%, ou je ne sais pas combien de pourcents, c'est la pornographie, la marchandise, l'achat en ligne ou tout ça. Mais bon, on peut se débarrasser de ça. Enfin, mais c'est au niveau individuel, tu as raison. Ah, oui, pardon.
En France et entre autres des institutions qui censurent les artistes au sein de leur exposition. Il y a eu quand même plusieurs artistes amenés à supprimer leur œuvre d'exposition récente parce qu'elle pouvait provoquer peut-être des réactions qui n'étaient pas souhaitables. Effectivement, on est dans une période dangereuse, mais il y a quand même une censure incroyable.
Mais alors là, je vous soutiens, je soutiens cette idée évidemment. Mais la pire censure, c'est l'autocensure insidieuse. Et aujourd'hui, et moi qui suis de l'institution, la pire censure aujourd'hui, c'est la censure calculatrice. C'est la censure de complaisance. C'est, en fait, l'institution, oui, les journalistes, ça, vous dites ? Oui, bien sûr. Voilà, si vous prenez les grands journaux, qui finance aujourd'hui les grands journaux ? Est-ce que vous croyez que M. Pinault aimerait lire dans Harry Bellet dans Le Monde, parce que Pinault est propriétaire de 2 ou 3% du capital du Monde. Donc, effectivement, Harry Bellet, il écrit sur les expositions de la Fondation Pinault. Et donc, un article sur 4, c'est critique, parce qu'il faut tout de même laisser croire que la critique est possible. Mais dans les institutions, par exemple, moi, je connais bien le champ des conservateurs de musées. Les jeunes conservateurs aujourd'hui, ce sont des employés, pour le coup, modèles du grand capital, dont l'incarnation, c'est que, effectivement, le prescripteur, c'est la Fondation Vuitton aujourd'hui, dans le domaine de l'art contemporain. C'est Vuitton. Donc, si vous exposez pas les artistes, là, il y a un vrai danger. Ça, c'est le pire danger. C'est vraiment le pire danger. Parce que, évidemment, le modèle de M. Sébastien Huyghe, maire de Tourcoing, c'est sans doute la Fondation Vuitton. Et donc, la Fondation Vuitton, quand elle fait une exposition en ce moment, et Dieu sait si nous avons aimé Suzanne Paget, quand elle était directrice du Musée d'art moderne de la ville de Paris, quand elle fait aujourd'hui une exposition où on met côte à côte, je précise que je refuse de mettre les pieds à la Fondation Vuitton. Je ne l'ai toujours pas fait. Donc, il faudra m'emmener peut-être à la baïonnette pour que. Mais 25 chefs-d'œuvre, la danse de Matisse, le cri de Munch, ou je ne sais quoi, les 25 chefs-d'œuvre, c'est juste une histoire de fric. Ça n'a aucun sens sur le plan artistique. C'est juste de la com. Oui, c'est juste du fric. C'est la défiscalisation, j'en sais rien. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce que quelqu'un a parlé de cette exposition ? dans la presse, bon, il y a eu un peu de complaisance parce qu'on a invité les journalistes sans doute à faire le tour de la planète 3 fois et on a offert un sac Vuitton à la sortie pour qu'ils en parlent. Mais bon, alors tout ça, ça va s'effondrer. Enfin, moi, je pense que ça va s'effondrer. Oui, je pense.
Mais après, par rapport à votre question, du point de vue de l'artiste, et c'est celui duquel je vais me placer, c'est-à-dire que c'est très compliqué. Aujourd'hui, mais certainement avant, j'en sais rien. Enfin, est-ce que les choses ont beaucoup changé là-dessus? Mais il y a des compromis, évidemment, à faire. Moi, j'ai besoin de manger, moi, j'ai besoin d'avoir un travail. Évidemment, il y a des zones de compromission qui... Alors après, c'est purement personnel. Il y a des zones voilà, dans lesquelles je peux aller, c'est encore acceptable. Et il y en a d'autres où je n'irai pas. Mais si je ne vais pas dans ces zones, dans certaines de ces zones, ça induit aussi que j'ai déjà pensé à une reconversion. Et ce n'est pas que de l'autocensure, c'est une façon de vivre dans le monde dans lequel je vis, avec le travail que je fais.
Chaussures.
De prière et qui avait mis des mocassins de femmes dessus, c'était tout. Eh bien, il a fallu supprimer cette œuvre et on en a supprimé d'autres. Bon, d'autres ont été interdites pour les mêmes raisons, donc ça fait quand même une censure de plus en plus lourde, je trouve. J'ai lu ça plusieurs fois dans différents, je sais pas, différentes revues ou entendues. C'est quand même plusieurs. Est-ce que je trouve que ça se multiplie cette année?
Mais c'est effectivement, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai.
Après, il y a
aujourd'hui,
aussi.
Enfin bon, je veux dire, enfin, mon côté vieux con, mais enfin, je veux dire, quand j'avais 20 ans, j'ai rêvé d'aller en Afghanistan de chevaux. J'y suis allé en 2 chevaux en traversant de des pays où vous pensez qu'aujourd'hui on pourrait les traverser. Voilà, c'est cette réalité politique violente, elle est là. Et c'est, je trouve scandaleux qu'effectivement l'art puisse être de toute manière censuré. Et que ce soit un artiste qui se censure ou l'institution. Qui s'auto-censure, ce qui est pire, hein, ce qui est pire, parce que l'artiste est pris dans ses contraintes aussi économiques, sociales. Ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, on puisse penser une seule seconde qu'une œuvre de cet artiste arabe puisse provoquer un problème. Enfin, pour moi, là, c'est le comble de l'horreur.
Alors qu'à côté de ça, Maurizio Catlan expose partout dans le monde avec des œuvres hautement provocatrices. Donc, ça questionne une autre part de la société, j'ai envie de dire. Voilà, il y a quand même des niveaux. Hein.
Dans le questionnement institutionnel, on me rappelle, parce que moi, j'avais complètement zappé, que l'établissement va faire...
À 6h30.
Ah, on a déjà fait les 2 heures.
Mais je vous remercie, en tout cas, de votre présence, Paul-Hervé, Alexandra.
Merci, Paul-Hervé.
Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu l'exposition, elle est là jusqu'au
10 novembre.
Enfin,
dans
quand
l'espace
je dis exposition,
public.
Je ne sais pas si c'est le mot.
Ouais, c'est une espèce de parcours, une expérience peut-être. C'est-à-dire que bah, je vous invite à regarder le sol.
Voilà, qui est un beau parcours dans la ville. Et puis en tout cas, des photos qui...
Ou aller à Niort.
Et à Niort aussi.
Oui. Au Centre d'art photographique contemporain La Ville à Perrochon.
Et au CNAR.
Dans l'institution.
Et au CNAR,
Centre national des arts de rue, où là vous avez des... C'est pas vraiment le CNAR, c'est plutôt le site des usines Boisneau qui a été réinvesti, un site donc patrimonial. Avec une version affiche du projet.
Et merci de votre présence. J'espère que ça vous donnera l'envie de relire Debord et puis de revisiter l'international situationniste.
Et puis si vous n'avez pas vécu la petite expérience sonore, une 20aine de minutes, c'est les mardis, je crois, où il y a des séances gratuites de la carte du tendre version sonore. Voilà, c'est une écoute dans le noir. C'est une expérience que je vous invite vivement à vivre.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Comment ? Le mardi.